Radio Prague, les informations.
La République tchèque pourrait demander l'application du pacte de solidarité. Le congrès de l'ordre des médecins tchèques a pris fin à Prague. Le pape a remis un prix à l'évêque tchèque Václav Malý. Au cas où le Canada n'abolirait pas l'obligation de visa pour les ressortissants tchèques, la Tchéquie demanderait à tous les autres pays de l'Union européenne, conformément au pacte de solidarité, d'introduire l'obligation de visa pour les ressortissants canadiens. Une déclaration du ministre tchèque des Affaires étrangères, Cyril Svoboda. Le ministre espère cependant qu'une telle démarche ne sera pas nécessaire parce que les autorités canadiennes procéderont elles-mêmes à l'exemption de visa pour les ressortissants tchèques. Les représentants du Parti civique démocrate, ODS, formation principale de l'opposition tchèque, ont porté plainte contre le premier ministre Jiří Paroubek, l'ancien chef de son secrétariat Zdeněk Doležel et les ministres Bohuslav Sobotka et Milan Urban, membres de la social-démocratie tchèque. La plainte concerne la privatisation du groupe pétrolier et chimique Unipetrol, acquis par la société polonaise PKN Orlen, privatisation sur laquelle planent des soupçons de corruption. Le pape Benoît XVI a remis à l'évêque catholique de Prague, Václav Malý, ce dimanche au Vatican, le prix Jean-Paul II de défense des droits de l'homme. À la même occasion, le pape a distingué aussi Stefan Wilkanowicz, membre du comité de la conférence épiscopale polonaise pour le dialogue avec le judaïsme et ancien rédacteur en chef du mensuel Znak. L'évêque Václav Malý, ancien dissident, est aujourd'hui président de la commission Justitia et Pax. Il a été sacré évêque en 1997. C'est en présence du premier ministre Jiří Paroubek que s'est terminé à Prague, après 3 jours de délibération, le congrès de l'ordre des médecins tchèques. Le congrès a reconduit David Rath au poste de président de l'ordre des médecins. Le premier ministre a appelé les médecins à collaborer sur les mesures de restriction qui permettraient de réduire le déficit de la santé publique tchèque, déficit qui se chiffre à 10 milliards de couronnes. Il a promis également les changements dans le système de la santé publique. Météo. Ce dimanche, fête de tous les Havel, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie a été clair à variable en Bohême et nuageux en Moravie. Les températures diurnes se sont situées entre 9 et 13 degrés. Lundi, le temps en République tchèque sera variable à nuageux et les températures diurnes s'échelonneront de 6 à 10 degrés. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées par Václav Richter. Merci de les avoir suivies.
Culture sans frontières. Magda Segertova.
Bienvenue sur Culture sans frontières. Avez-vous déjà entendu parler des sculptures sonores? Eh oui, ça existe. Elles sont exposées à la galerie de l'Institut français de Prague. Nous parlerons avec leur créatrice, Filomena Borecka. Dans l'actualité musicale, on remarque la sortie d'un nouvel album de la chanteuse Hanna Hegerova. Vous aurez l'occasion d'entendre quelques extraits. Mais tout de suite, place à l'art plastique et direction rue Szczepanska à Prague. Filomena Borecka, auteur des sculptures sonores et de dessins remarquables, exposée jusqu'au 26 octobre prochain à la galerie de l'Institut français de Prague, a 28 ans. Formée d'abord à la AVU pragoise, puis à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et enfin à New York, elle partage désormais sa vie entre ces villes et d'autres encore en multipliant divers projets, expositions et résidences d'artistes, en passant du dessin par la bande dessinée créée avec sa collègue Caroline Gillot à la sculpture. Et ceci toujours dans différents coins de l'Europe et à New York, sa ville fétiche. À la galerie de l'Institut, devant ses œuvres qui résument sa courte et très prometteuse carrière, Filomena Borecka s'est mise à me parler de toutes ses expériences et de ce brassage de culture qui l'ont tant influencée.
Je suis née à Prague et depuis assez petite, j'ai étudié la langue française dans une école qui avait donc l'enseignement de langue française élargie. Et puis donc j'étais toujours attirée pour la culture française. Et après la chute du mur, j'ai donc essayé de partir, et comme il n'y avait pas encore des échanges Erasmus et Socrates ou tout ça, donc j'étais en fait forcée de soit complètement étudier ailleurs ou rester ici. Et donc j'ai fait ce risque, je suis partie pour les examens d'admission qui à l'époque étaient assez longues. Il fallait envoyer les œuvres et puis quand vous étiez présélectionné, il fallait se présenter à Paris pour les examens de français. Ceux qui ont été présélectionnés, ils ont pu faire donc les examens pratiques. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça parce que l'école des Beaux-Arts veut les étudiants étrangers et ils ont diminué toutes ces exigences. Et donc, j'ai fréquenté différents ateliers, surtout les ateliers de la sculpture. Et aussi, pendant ce cursus, j'ai pu bénéficier de la bourse à l'étranger et je suis partie à New York pour 8 mois. Pour Hunter College, c'était un programme de Master of Fine Arts. C'était une belle expérience aussi.
Quelle différence entre l'enseignement dans telle ou telle école, Philomena Boretska?
À Prague, c'est quand même assez classique, mais ça permet de vraiment apprendre le dessin et c'est essentiel pour saisir les idées, pour vraiment pouvoir développer une idée. C'est bien d'avoir cette possibilité de savoir faire. Et puis, je trouve que c'était bien qu'après je suis partie parce que c'était rafraîchissant pour la création. Et en même temps, c'était très intéressant parce que c'était assez intellectuel. On a discuté beaucoup. C'était vraiment un différent approche. Et aux États-Unis, encore, c'était aussi différent. Autrement, il y avait aussi beaucoup de discussions entre les élèves, des séminaires où chacun doit intervenir. Et à New York particulièrement, je trouve que c'est dynamique et qu'il y a beaucoup d'occasions ou des opportunités de montrer son travail comme ça dans les fêtes ou dans les événements qui sont peut-être moins importants d'une manière de la durée, mais qui sont vivantes et dynamiques.
Au fond de la salle de la galerie de l'Institut, derrière un rideau transparent, sont placées les installations auxquelles Philomena a donné vie. Des sculptures qui vivent, respirent et nous parlent presque.
Je les appelle les antichemins. Et ça vient d'un vieux mot qui n'est presque plus employé. Ça vient de verbe s'enticher, de tomber amoureux de quelqu'un, de ce goût extrême de vivre. Et dans le vieux temps, il y avait vraiment ce nom propre, entichement. Et c'est surtout parce que j'ai cherché un équivalent de mot tchèque, hrlich, qui veut en même temps dire la gargouille de cathédrale, mais ce n'est pas uniquement dans ce contexte architectural, c'est aussi donc cet être qui va s'exprimer et qui vomit des informations. Ils sont faits de différents matériaux, il y a du latex, il y a de la mousse polyéthyrène, il y a de la terre cuite. C'est parce que dans chaque pièce, le son sonne différemment. Et la forme de la sculpture définit le son. Et aussi, ça souligne les différences de chaque être, de chaque entichement qui a ses propres qualités, son caractère personnel. Et donc, c'est une sorte de la communication des différents êtres qui se enrichit et qui se confrontent dans cette installation qui est plutôt dans une partie intime où le spectateur peut s'asseoir et respirer avec eux.
Techniquement, comment ça se passe? Il y a un haut-parleur, il y a quelque chose à l'intérieur de...
Donc, ici, vous pouvez entendre cinq sculptures parce que c'était fait par la nouvelle technologie de DVD 5.1. Donc, c'est les cinq sources individuelles qui sont diffusées en même temps par le DVD de Home Cinema ou de ce système-là, mais que vraiment... J'utilise donc chaque piste pour un autre son. Vous entendez l'un après l'autre et puis après, ils communiquent ensemble sur cette bande de DVD 5.1.
Et comment vous avez enregistré les sons? C'est vous qu'on entend ou plusieurs personnes?
Donc c'est différent de mes amis ou des gens que j'ai demandé de contribuer à mon projet. Il y a un petit enfant qui respire là, le petit entichement. Puis il y a un homme âgé, il y a une dame. Donc c'est différentes voix, mais seulement qui respire ou quelquefois ils la mettent en gémissement, mais c'est pas narratif. J'aime beaucoup entendre des sons dans la nature et même dans la ville, le bruit de vide et des choses qui se passent, qui sont en train de se dérouler. Mais la nature, c'est surtout qui me touche le plus.
La clôture de l'exposition Amplitude aura lieu le 26 octobre prochain à la galerie de l'Institut français rue Stepanska. Son auteur, Filomena Boretska, et la danseuse Alžběta Majová interviendront lors de la manifestation.
Culture sans frontières.
Už 10 let nám láska slouží. A nebo my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten pije z louží. A kdo má hlad, i kůru jí. My rozešli se tisíckrát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde jde dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlý květ už vypad z vás. Sladká, něžná lásku přísahám, že ať se štěstí točí zády k nám, já stávám.
Quand on lui demande d'où vient son amour pour la chanson française, elle répond « Je suis très francophile. La musique pop britannique ne m'a jamais tellement attirée. Les Français ont des paroles extraordinaires. Vous voulez savoir ce qu'est une chanson à la française? Je dis toujours que c'est une chanson qui parle de quelque chose. C'est essentiel. Et peu importe si on y parle d'une marguerite qui se balance dans le vent ou d'une fille des rues qui vend son corps. » Hana Hegerová, personnage haut en couleur de la musique tchèque qui a chanté en 1967 à l'Olympia, a sorti un nouvel album, Můj dík, merci beaucoup. Un album vieux-nouveau en fait, puisqu'il regroupe ses anciennes chansons dont les textes ont été signés par le poète Pavel Kopta. Ce dernier a adapté pour Hana Hegerová notamment les chansons de Jacques Brel, mais aussi par exemple La carte du tendre de Georges Moustaki.
Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty, řeky, šrafy a kroutí se jak paragrafy. Jde o to umět v mapě číst. Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv
může spát. Kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe. Tam čeká na vás vodopád. Znám lidi, kteří slepě tápou, protože pohrdají mapou. A věřte, je jich víc než dost. Má mapa pranic nepředstírá, záplata je jen lepší díra. Dva břehy může spojit most.
C'était Hanne Reguerova à la fin de Culture sans frontières. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine à tous et bonne écoute de la suite de notre programme. Au revoir.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc.
Emmanuel Jamidoké. On connaît la Prague gothique ou baroque du pont Charles ou du château, mais beaucoup moins la Prague plus moderne de la périphérie. Entre grands ensembles d'habitations et petits villages préservés, c'est pourtant là que vit plus de la moitié de la population de la capitale tchèque. Tantôt bucolique, tantôt bétonnée, partez à la découverte de la Prague des Pragois, loin des hordes touristiques de la vieille ville, pour découvrir le quotidien des habitants de la Vltava. Pour se rendre en périphérie, rien ne vaut le métro, dont les lignes B et C se prolongent assez loin en direction des limites administratives de la capitale. Vous pouvez, par exemple, descendre aux stations Opatov ou Stodoulki pour avoir un rapide aperçu de la vie en banlieue. Toute la périphérie est extrêmement bien desservie par des transports en commun modernisés qui restent assez bon marché et d'une ponctualité rare. À la sortie de chaque station, des autobus permettent de rejoindre les bourgs les plus isolés. Cette efficacité, qui ferait rêver plus d'un banlieusard français, explique sûrement l'engorgement encore réduit, même aux heures de pointe, des autoroutes qui mènent vers le centre de Prague. Lors de votre trajet, faites comme les Tchèques et prenez de la lecture. Il vous faudra entre 20 et 25 minutes à partir du centre pour rejoindre les stations de fin de ligne et encore quelques dizaines de minutes de bus si vous voulez vous aventurer plus loin. Un petit tour dans le métro, le matin, vous permettra de vous faire une idée de la variété de la presse quotidienne tchèque. On y croise, bien évidemment, des fidèles lecteurs de Lidové Noviny, l'équivalent tchèque du Monde, mais surtout des accros au tabloïd à la britannique, dont le meilleur représentant, qui est aussi le quotidien tchèque le plus vendu, se nomme Blesk. Pour 9 couronnes, vous serez informé aussi bien des dernières nouvelles du gouvernement tchèque que des péripéties des candidats de la télé-réalité, dont les photos, assez dénudées, s'étalent presque tous les jours à la une. Enfin, les quotidiens gratuits ont aussi le vent en poupe, auprès des voyageurs, avec l'édition pragoise de Métro. Et si votre niveau de tchèque vous le permet, vous pourrez apprécier quelques extraits de poésie affichés dans les rames. Ce qui surprend certainement le plus les touristes étrangers en débarquant en périphérie, ce sont les dizaines de barres d'immeubles souvent grisâtres et sans transition, les champs, les arbres et dans le fond, les petits villages avec leurs clochers. On s'imagine souvent, en descendant au terminus, tomber dans une banlieue densément peuplée avec des rues et des bâtiments à perte de vue. Mais il n'en est rien. À Prague, la campagne est aux portes de la ville. Quelques chiffres, tout d'abord, permettent de mieux comprendre ce phénomène. La ville de Prague et ses 1,2 million d'âmes couvrent 496 km², ce qui équivaut à peu près à la superficie de Paris intramuros et de deux départements de la Petite Couronne.
la ville de Paris, avec ses 1,2 million d'habitants, ne représente en fait qu'un cinquième de la superficie totale de Prague. La pression démographique est donc tout à fait différente. Il est donc assez courant, dans les quartiers de Rodov ou Chéberov, par exemple, de voir un petit chemin de campagne porter la plaque rouge des rues de Prague, au même titre que de grandes avenues comme Vinohradska ou Narodni Trida. À côté des petites maisons entourées par des jardins et des potagers, comme une ceinture grise enserrant la ville, se trouvent donc les villes satellites de Prague ou cités dortoirs. À proximité des stations de métro, ces villes dans la ville hébergent plus de 40% des Pragois. Les grands ensembles ont été édifiés au milieu des champs, pour la plupart entre les années 1960 et le début des années 1980. Pour ce faire, de nombreux petits villages ont été purement et simplement rayés de la carte. Les habitants des hameaux pragois, qui ont été épargnés par ces destructions, conservent encore aujourd'hui une forte identité villageoise et s'appellent entre eux les Staro-Usedlitsi, ou vieux implantés. Répondant à une logique de construction de masse pour faire face à la pénurie de logements, tous les bâtiments ont été édifiés sur le même modèle, avec des panneaux préfabriqués, d'où leur surnom de panelaki. À l'intérieur aussi, les appartements sont standardisés. En général, ce sont des trois pièces avec cuisine et salle de bain, tous équipés avec les mêmes meubles et les mêmes papiers peints et lino, ou presque. Les panelaki sont aujourd'hui en cours de rénovation. Certains ont été repeints avec des couleurs plus gaies. D'autres encore ont été réaménagés avec des toits pointus pour casser la monotonie ambiante. Mais la tâche est rude pour remettre à neuf ce gigantesque parc de logements. Pour vous rendre compte de ce qu'est une ville satellite, comme on n'en fait plus, vous pouvez aller voir Yijni Miesto, ou la ville du sud, située, comme son nom l'indique, au sud-est de la métropole, près de la station de métro Haie. C'est la plus grande cité de ce genre à Prague, avec ses 80 000 habitants. Ce qui frappe, c'est le peu de dégradation qu'ont subi les immeubles, contrairement par exemple aux cités de la banlieue parisienne. Quelques tags, il est vrai, mais pas de vitres cassées ou d'immondices dans les rues. Seul le manque d'entretien des immeubles se fait parfois sentir. L'autre grande différence avec ce que l'on peut connaître en France est que l'on se sent parfaitement en sécurité dans ces cités où règne une ambiance presque familiale entre ville et campagne. Ces cités, construites pour les classes moyennes, devaient, selon les projets ambitieux des dirigeants de l'époque, posséder tous les services publics dont la population pouvait rêver. Parcs, écoles, cinémas, centres commerciaux, etc. dont la plupart n'ont jamais été construits faute d'argent. Il reste donc entre les immeubles de nombreux terrains vagues où poussent les herbes folles, dont certains ont été transformés en parking. Pour les habitants des cités, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs, la seule solution pendant de nombreuses années était donc de se rendre au centre-ville. Cela est en train de changer aujourd'hui. De plus en plus d'entreprises étrangères ont choisi d'implanter leur siège en périphérie. Les chantiers se multiplient donc un peu partout et les grues envahissent le ciel pragois. Les centres commerciaux géants ont également poussé comme des champignons ces dernières années le long des grands axes de communication. Avec leurs hypermarchés ouverts 7 jours sur 7, leurs centaines de boutiques et leurs cinémas géants, ils ne diffèrent en rien de ceux que l'on peut trouver dans toutes les banlieues d'Europe et d'ailleurs. Poussons notre visite un peu plus loin. Lorsqu'on quitte la ville de Prague proprement dite, pour les communes limitrophes, on se sent déjà à la campagne. Cela est extrêmement appréciable lorsqu'on veut prendre un bon bol d'air pur en fin de journée ou le week-end, pour faire comme les Pragois, qui ne manquent pas une occasion de partir dans leur maison de campagne. Je vous conseille par exemple de faire un tour à Pluhonice, au sud-est de Prague, tout près de l'autoroute qui mène à Brno. Située à une petite demi-heure du centre de Prague, par le bus et le métro, Pruhonice est en fait un petit village où il fait bon vivre, avec ses pavillons coquets et ses étangs aux barbottes des canards. Les nouveaux riches ne s'y sont pas trompés, et les villas en construction y sont légion. Le village mérite aussi une visite pour son magnifique parc botanique de 250 hectares qui entoure le château des Silva Taruca, une merveille dans le style historiciste de la fin du XIXe siècle. Vous pourrez croiser, au fil des 40 kilomètres de sentier, les familles pragoises au grand complet venues promener leurs chiens ou donner à manger aux canards. C'est pourquoi, lors de votre prochain séjour à Prague, n'oubliez surtout pas de venir faire un petit tour en banlieue.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 1350 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours.